J'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, je vais bien.
Alléluia.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Nous allons ouvrir l'Épître aux Romains, chapitre 13e, verset 8e. Ne devez rien à personne. Et il suffit de lire le verset premier jusqu'au verset septième. Et ça fait partie des impôts, ça fait partie de la soumission aux différentes autorités. Ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous vous souvenez, un jour, un docteur de la loi demanda à Jésus pour l'éprouver: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus, sachant que c'était un docteur de la loi, lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit: tu as bien répondu. Lui dit Jésus: fais cela et tu vivras. Donc on sait que cela fait partie du cœur de Dieu, et c'est ce que Dieu nous a révélé, l'attitude à l'égard de Dieu. Et puis aussi l'apôtre Paul va reprendre lui aussi une partie de ce que Dieu a révélé, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le docteur de la loi, voulant se justifier, dit: et qui est mon prochain? Puisque tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Et cette même question s'adresse à chacun d'entre nous. Nous aimons Dieu et aussi nous aimons. Bien sûr que l'on pourrait dire c'est notre ego qui nous permet de nous aimer nous-mêmes. Mais c'est la Bible qui le révèle. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire, si je ne m'aime pas, c'est difficile d'aimer mon prochain. On est dans une génération où l'on a beaucoup de mal à s'aimer soi-même. On se détesterait plus, on se haïrait plus, et heureusement qu'on ne reste pas très longtemps devant le miroir, sinon nous verrions tous nos défauts, toutes nos qualités, mais la Bible nous montre qu'il faut s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ça demande un effort. On peut, une partie de sa vie, s'aimer. Je ne parle pas avoir été aimé, mais s'aimer soi-même. Jamais je n'oublierai un culte du dimanche matin dans cette maison de prière. Il y avait une femme jeune qui était dans la maison de prière et j'étais heureux. C'était peut-être son deuxième culte en un temps relativement long. Elle n'était pas baptisée par immersion. Et ce matin-là, je parlais sur s'aimer soi-même. J'avais démontré qu'il fallait s'aimer soi-même. Et le visage de cette femme me regardait. Puis au moment des annonces, elle s'est levée, elle est partie. Une personne, une de ses amies, est allée quelques instants avec elle. Le culte s'est terminé, puis au bout d'un certain temps, cette chrétienne est revenue avec cette personne, la conduisant vers mon épouse, et après un entretien très long, mon épouse a demandé à ce que je vienne. Et nous avons découvert comment Dieu est celui qui parle au milieu de nous. Pourquoi ? Parce que cette femme, ce n'était pas, on ne savait pas qu'elle venait. Et puis ensuite, on ne savait pas non plus qu'elle avait quitté son mari et ses deux enfants, sauf erreur, pour venir au culte. Ça, son mari, ses enfants le savaient. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'après le culte, elle prenait une direction où elle allait arrêter son véhicule, je crois, sur un pont qui est très haut, et se jeter pour mettre fin à ses jours. C'est stupéfiant de savoir qu'une personne sortie du culte puisse avoir de telles pensées. Peut-être regarder ma montre. Dans 1h15, je ne serai plus là. Je ne serai plus de ce monde. Mais Dieu soit béni, cette femme est rentrée à sa demeure. Parce que ce matin-là, on a prêché sur s'aimer soi-même. Nous sommes dans un monde tellement dévalorisant. L'homme peut dévaloriser son épouse. La femme peut dévaloriser son épouse, son époux. Les enfants peuvent aussi se dévaloriser. Vous savez comment c'est dans le monde professionnel, dans le monde aussi relationnel. Et j'espère que dans l'Église, dans les églises, ces choses n'existent pas. tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'aimer soi-même, non point d'une manière égoïste, ramener tout à soi-même, mais nous aimer de l'amour de Dieu comme Dieu nous aime. Je voudrais redire, ce matin, il n'y a pas un service plus grand que l'autre. Tous les services de l'Église sont importants et sont la même égalité, puisque c'est notre prochain que nous servons. Alors je suis allé, comme vous le savez, jeudi soir à Nouveau Départ. J'avais comme tenue vestimentaire mon polaire avec ma capuche. Lorsque je suis arrivé sur la place de la Petite Hollande face à la médiathèque, et j'ai pu voir comment cela se faisait, la remise du sachet avec des denrées alimentaires, avec aussi une partie spirituelle de certaines choses, et puis aussi comment les uns et les autres pouvaient échanger. Puis ensuite, nous sommes partis, j'ai suivi le véhicule, nous sommes allés dans un squat, et je me suis dit, mais jusqu'où ils viennent pour voir ces hommes qui sont là dans un squat, mais personne n'oserait aller là, ça nous paraît tellement dangereux. Et puis, nous sommes revenus vers le centre-ville, où là j'ai vu un homme sur un matelas sur le trottoir. On l'a réveillé pour lui donner quelque chose de chaud. Après, une jeune fille est venue suite à quelqu'un qui nous a dit « il faut aller la voir ». Et nous l'avons vue, nous lui avons remis ce qu'il fallait. Elle dit « je suis en voie d'amélioration, vous m'auriez vu il y a tant de temps, j'étais comme cela ». Et je lui dis, mais écoutez, gardez bien ce verbe améliorer. Puis ensuite, j'ai vu ces jeunes, ces hommes aller à Carrefour Market. Et oui, ils doivent être là, les gars. Alors ils sont entrés, ils n'ont pas vu les gars, sinon ils voulaient les voir parce que ils savaient qu'ils pouvaient acheter, ils voulaient leur remettre quelque chose. Puis ensuite, nous sommes allés dans un endroit de l'hôpital, là, et nous avons vu 4 personnes. Puis ensuite, nous n'avons plus allé au centre-ville du côté des Galeries Lafayette ou à Talensac, qu'il n'y avait plus rien, plus rien. Mais je me suis dit, à chaque fois qu'on arrêtait, quel amour que les jeunes ont. Quel amour. Le social, s'occuper de son prochain, ce n'est pas seulement que de s'occuper des jeunes, bien sûr, quand je dis des hommes et des femmes, s'occuper par des hommes anciens ou des femmes d'un certain âge, s'occuper. La jeunesse s'occupe. Mais vous avez remarqué qu'un jeune dira à un autre jeune, « Ah, tu sais, je touche à la drogue, mais c'est bien, ça me fait du bien, ça m'enrichit. » Ça m'emmène dans le monde des voyages. Mais quand je voyais des jeunes bien entourés par les adultes, aussi, là, s'occuper du prochain, à terre. Je disais dans mon cœur en rentrant, quel amour pour les âmes. Quand je ressortais du squat, je me disais, quel amour pour les âmes. Quel amour pour les âmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je rentrais en disant, Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour tes Églises qui ont l'amour du prochain. Parce que cet amour du prochain, quand il fait froid, quand il pleut, quand il neige, quand on voit ces hommes et ces femmes descendus aussi bas, qui peut les relever?
qui va les relever, sinon la puissance de l'Évangile, la puissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Un homme d'un certain âge m'a dit qu'il venait de perdre son épouse. Il était dans le deuil. Je lui ai dit, monsieur, j'ai appris que vous venez de perdre votre épouse. Et il me dit, oui, hier soir. Et donc, je lui ai présenté mes condoléances. Et je lui ai dit, vous êtes à la rue? Il dit, non, on a quelques appartements. Mais je suis venu pour parler ce soir. Ça me fait du bien de parler. Je lui dis, vous allez faire un service funèbre pour votre épouse? Oui, je vais faire cela à l'église catholique. Alors je lui ai dit que Dieu vous bénisse. Ça me paraissait la moindre importance. Il ne savait pas que j'étais pasteur, mais le fait de faire cela quand même dans une église catholique, ça veut dire quand même qu'on croit au Seigneur. Et il est parti quelques mètres, il est revenu. Ah, s'il y avait un bon Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a non seulement une misère morale, une misère physique, mais une misère spirituelle. Quand vous allez vers ces hommes et femmes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur situation, au cours de mes voyages, je suis entré dans peut-être les plus belles maisons, les plus beaux palais, les situations les plus grandes. Mais en réalité, la souffrance aussi la plus grande. Ce qui veut dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur de nous. Certes, il s'inquiète de l'extérieur de nous. Quand il s'est adressé à deux hommes qui marchaient, il s'est joint à cette conversation. Ami, de quoi parlez-vous en marchant que pour vous soyez aussi tristes? Ils ont expliqué pourquoi ils étaient tristes. Ils ont dit à cet homme, mais tu es le seul qui séjourne à Jérusalem. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Mais Jésus, c'était notre espérance. Il était puissant en œuvre et en parole. Il faisait des miracles, il faisait des prodiges. Il enseignait. Il était notre espérance, il est mort. Oui, quelques femmes, avec leur rêverie, ont dit qu'il était ressuscité. Dieu s'intéresse aussi à notre visage, parce que notre visage est souvent le reflet de notre cœur. C'est pas toujours une réalité, mais on peut avoir un visage triste avec un cœur joyeux. On peut avoir un visage rayonnant avec un cœur triste. L'homme a rapporté cette histoire vraie d'une jeune fille lors d'un mariage. Elle était l'animatrice, bout d'en train, comme on dirait. Et cette jeune mettait toute l'animation. Et quand le rideau s'est fermé dans le sens que tout le monde est reparti dans la voiture, dans chaque voiture on pouvait s'exprimer, c'est formidable, quel mariage extraordinaire, quelle animation, quelle animatrice. Mais quand quelques heures après, le message retentissait que cette jeune avait mis fin à ses jours, le visage. Vous vous souvenez encore de ce clown qu'on rend, on a raconté l'histoire. Le milieu évangélique a raconté cette histoire. Mais il y a quelques années, j'ai découvert la suite de l'histoire. Alors ce clown qui travaille dans un cirque aussi, il fait rire les gens. C'est son métier de faire rire les gens. Et puis, il va voir un docteur. Il est malade, je crois, problème de poumon. Et donc, il explique sa situation. Et le docteur lui dit, mais vous devriez aller voir. Là, il y a un clown en ce moment, il fait rire tout le monde et j'ai des patients. Ça leur fait du bien. Mais il dit, le clown, c'est moi. Mais quand il est rentré dans sa ville du Havre, dans l'escalier de son immeuble, il y avait un petit garçon, une petite fille qui était paralytique, qui avait été guérie par le Seigneur Jésus. Alors il a cherché à savoir plus qui était cette petite qui avait été guérie. Il la connaissait, mais où elle avait été guérie? Et il est venu aux réunions évangéliques. Le vent de Dieu soufflait. Il y avait les miracles, il y avait les prodiges. Il y a toujours les prodiges. Mais là, c'était le commencement de l'action de Dieu dans notre nation 1930. Cet homme a été guéri par le Seigneur. Cet homme s'est repenti. Cet homme s'est converti à Jésus-Christ. Il a été baptisé par immersion et après il a chanté la gloire de Dieu comme ancien dans l'église. Ça, c'est les choses merveilleuses que Dieu peut faire. Seigneur, s'occupe de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et je suis heureux d'être dans une église, d'être le pasteur et de savoir que vous travaillez, que vous priez, que vous jeûnez, que vous avez la foi et que vous allez vers votre prochain. Que Dieu soit béni. Vers votre prochain. Oh, je me souviens un jour d'une femme qui est venue, semble-t-il, en manteau de fourrure. On est loin de penser. Puis cette personne m'a demandé un entretien. Et j'ai découvert que cette personne était une femme du grand banditisme. Et à fur et à mesure qu'elle a ouvert son cœur, elle s'est tournée vers Dieu. Elle s'est tournée vers Jésus-Christ. Elle a demandé pardon à Dieu. Le grand banditisme était sa famille. Ses amis parfois l'amenaient même là à la réunion en voiture. Mais elle a été baptisée par immersion. Jésus a changé son cœur. Jésus a changé sa vie. Et ce matin encore, ça fait de longues années, mais ce matin encore, nous avons partagé la scène avec elle et elle avec nous. Notre Dieu ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas à notre extérieur. Certes, il regarde notre visage. Certes, il regarde notre cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Pour ce docteur de la loi, mon prochain, c'était le juif, pas le païen. C'était seulement le juif. Qui est mon prochain? Est-ce seulement mon épouse? Est-ce seulement mon époux? Mes enfants, un membre de la famille? C'est plus que notre prochain. C'est mon époux, mon épouse. une seule chair. Mes enfants, c'est plus que mon prochain, c'est mes enfants. Mais qui est mon prochain ? Sur les 200 nations que nous sommes, oui, ils sont tous notre prochain. Tous notre prochain. Tous notre prochain. Vous avez remarqué que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de supériorité par rapport à quelqu'un d'autre. Nous sommes à égalité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais vous avez remarqué aussi que dans la parole de Dieu, Dieu nous dit qu'il a racheté, Jésus a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Si l'Esprit de Dieu révèle là, dans Apocalypse chapitre 5e, verset 9e, c'est que dans le ciel de gloire, eh bien Dieu a racheté des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation, et qu'ils entrent les uns après les autres dans la gloire éternelle. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il n'y a que l'homme qui peut faire des distinctions. Il n'y a que les religions qui peuvent faire des distinctions. Dieu ne fait aucune distinction. Il nous aime. Il ne regarde pas notre carte d'identité. Il ne regarde pas notre passeport. Il ne regarde point la couleur de notre peau. Il ne regarde pas notre langue. Il ne regarde pas notre dialecte. Dieu parle toutes les langues. Toutes les langues. Il s'est révélé à Saul de Tarse et lui a parlé en langue hébraïque. Il parle de toutes les langues, notre Dieu. C'est lui l'auteur de toutes les langues. C'est lui qui a communiqué toutes les langues de par le monde entier. Dieu aime ses 200 nations. Il ne fait exception de personne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Et pourtant, quand je regarde le verset 9e, l'amour peut faire du mal. Ou plutôt, l'acte qui est un manque d'amour peut faire du mal. Quand la Bible dit « tu ne commettras point d'adultère », ce qui veut dire que ça fait du mal. Quand la Bible dit « tu ne tueras point », ça fait du mal. Quand la Bible dit « tu ne convoiteras pas », ça fait du mal. C'est-à-dire que je peux faire du mal à mon prochain par mon acte, par mes actions. Je peux faire du mal à mon prochain quand un des jeunes est harcelé, soit au collège, au lycée. On peut lui faire du mal. On peut se faire du mal quand on est harcelé sur son lieu de travail. Quand on est harcelé dans bien des lieux, on peut faire du mal. Et l'amour, elle ne fait pas de mal au prochain. C'est là quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Et qui est le prochain pour Dieu ? Et qui est le prochain pour Jésus-Christ ? Eh bien, Jésus va répondre. La parole de Dieu nous dit que le docteur de la loi, Jésus va l'enseigner. Il veut se justifier. Et qui est mon prochain ? Et Jésus va parler dans l'évangile de Luc au chapitre 10e, verset 27e jusqu'au verset 37e, de cet homme qui part en voyage. Partir en voyage. Il quitte Jérusalem pour partir à Jéricho. Mais l'accident n'arrive qu'aux autres. Vous le savez comme moi. On part en voyage, mais l'accident n'arrive qu'aux autres, pas à nous-mêmes. Nous, nous avons le permis depuis 50 ans. Nous voyons bien clair. Mais l'accident, c'est pour les autres, mais pas pour nous. Et chacun parle comme cela. Et Jésus parle du prochain qui part. On sait tous les dangers. Et quand tout à coup, il y a là, dans cette route de Jérusalem à Jéricho, six meurtrières, des brigands s'attaquent à cet homme. Il le recouvre. Il est à terre. Il s'en va. Les brigands le laissent. Il est dépouillé. Il reste avec ses blessures, avec ses inquiétudes. C'est la brebis du Seigneur qui est à terre. Et comme Jéricho était une belle ville, une ville de repos, on descendait à Jéricho pour se reposer. Et puis, c'était formidable. Et tout à coup, on voit cet homme qui est à terre. Le religieux fait semblant, l'évite de ne pas le voir. Cet homme pouvait s'attendre à quelque chose, ce religieux. Un autre religieux passe aussi, fait semblant de ne pas le voir et l'évite. Quand vous êtes comme cela, c'est quelque chose de terrible. Dans la tête, c'est une véritable tempête. C'est terrible. C'est quelque chose de dramatique. Et cet homme, il a ses plaies. Il a ses blessures. Et Jésus parle d'un Samaritain qui passe. Et vous savez que les Samaritains n'avaient pas de relation. C'est terrible lorsque des hommes n'ont pas de relation à cause de leur ethnie autre. Il va s'arrêter. Ça coûte de s'arrêter. Pourquoi ça coûte? Parce qu'on vit non pas à l'heure du soleil, mais on vit à l'heure de la montre. Et à telle heure, il faut que ce soit comme ça. Quand nous étions en Afrique, en 69, on avait notre montre, mais parfois elle ne nous servait pas beaucoup. Quand on faisait les réunions en brousse, les frères disaient le matin, vous reviendrez l'après-midi, le soleil sera là, il sera donc 15 heures. On marchait à l'heure du soleil. On a marché comme ça en France aussi. L'heure du soleil. Ah, l'heure du soleil, tu viendras. À l'heure du soleil, tu feras. Donc s'arrêter, c'est difficile. On est pressé l'heure du soleil. Mais s'arrêter, c'est difficile. Et on se dit, mais quelqu'un d'autre va le faire. Quelqu'un d'autre va le faire. Et quand on porte secours au prochain, comment on va être reçu aussi? Nous étions au centre-ville, rue Lequin, nous avions notre lieu de culte. Et nous avions vu l'ancien bâtiment, ce qui est devenu le parking de la place Gralin. Mais nous avons connu l'ancien bâtiment. Et puis, on a vu les vitres, elles étaient armées. C'était la mi-carême. Et on faisait, la réunion se terminait, et tout à coup, on a vu plusieurs qui se sont affrontés, qui se sont battus, et jetés la tête contre la vitre. pouvez quand même pas fermer les portes et s'enfermer. Et j'ai dit à ces garçons, arrêtez, vous allez vous faire du mal. Et je suis allé vers eux. Et en allant vers eux, j'ai été étonné. Ils se sont réconciliés en l'espace de quelques secondes. Et puis ils m'ont insulté. Ils ont failli me frapper. Ils m'ont insulté sur mon visage, sur certaines choses. Je n'avais plus le droit que de rentrer dans le lieu de culte pour être protégé. C'est drôle, là, quand même, hein. C'est drôle. Je me souviens un jour, il était tard, tard le soir. Nous étions pasteurs à Vimoutier et nous entendons une voiture qui, elle est arrêtée pratiquement sous notre fenêtre. Et je me lève, j'ouvre un peu les volets et je vois une jeune fille à terre, un jeune homme qui veut l'entraîner, la faire monter dans la voiture. Et bien sûr, je fais « Oh !» Et la jeune fille, je vois qu'il y avait une complicité entre le garçon et la fille, elle monte dans la voiture. Pendant 3 heures, ils m'ont harcelé avec la voiture en passant. C'est difficile de porter secours dans ce monde d'égoïsme. Nous étions il y a quelque temps de cela à Paris. Je tais l'endroit. Nous étions bien tranquilles dans le métro quand tout à coup un homme, j'ai pensé qu'il était hindou, et il est passé devant un homme jeune qui avait une femme sur ses genoux, sur un siège. Et ce monsieur, ça ne lui a pas plu. Et tout à coup, ce monsieur s'est mis à lui parler dans une langue. Et puis, comme ce monsieur hindou restait stoïque, il lui a mis un coup de poing dans la tête, ça résonne encore dans ma tête. Il n'a rien dit. Il lui a remis un autre coup de poing dans le visage. Personne ne bougeait. Personne n'a bougé. Pas moi non plus, j'ai pas bougé. J'ai vu cette violence. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Quand vous êtes dans une rame et personne ne bouge. Seulement une dame a sorti de son un mouchoir Kleenex là. Pour le monsieur qui saignait. Et la dame a dit, mais je suis habitué, c'est tous les jours comme cela. Personne ne bouge. L'indifférence nous a gagné ou la peur de notre prochain? C'est plutôt la peur de notre prochain. C'est pas l'indifférence. Notre vie est tellement précieuse. Mais nous voudrions aller vers notre prochain. Et le Samaritain va s'arrêter, va regarder ses plaies. Va regarder ses plaies. Va s'en occuper. Va le mettre sur la monture. Va le laisser à l'hôtellerie. Va payer. Va dire, quand je serai revenu, s'il y a encore quelque chose, tu vas payer. S'occuper de notre prochain, ça coûte cher. Ça coûte cher à notre portefeuille. Et notre portefeuille est quand même quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui. C'est pour ça ce qu'il fit dire un jour un cultivateur que j'aime, qui descendait dans les eaux du baptême, et au moment de descendre, il dit au pasteur, j'ai mon portefeuille. Et le pasteur lui dit, non, il faut que le portefeuille soit baptisé aussi. Il faut que le portefeuille soit baptisé. porter secours, ça nous coûte aussi. Ça nous coûte. Mais cet homme fut sauvé. Cet homme fut sauvé. Je termine en disant, j'ai appris une grande leçon. Un couple suit les réunions depuis... Je pensais qu'ils étaient baptisés par immersion. Et quelqu'un me demande du couple à ce que je prie. Donc je fais la prière dans le hall d'entrée. Pasteur, il faut que je vous voie. Il faut que je parle. C'est quelqu'un qui a une tête bien remplie. Intellectuellement, ce soir, après la réunion, je recevrai. Je suis resté du temps et du temps et du temps. Quelle souffrance y avait. Et son visage, après la prière, je l'ai vu s'illuminer. Et ce matin, j'ai vu son visage plus le même. Et Dieu va faire un travail de guérison. Il n'y en a qu'un seul qui vous connaît, c'est Dieu. Et je ne peux pas entrer dans votre intimité si vous ne me laissez pas entrer dans mon intimité. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas entrer dans mon intimité si je ne vous laisse pas entrer dans votre intimité. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise « entre dans notre intimité ». Il connaît tout de nous-mêmes. Mais néanmoins, il attend qu'on lui dise « Viens, Seigneur, parler avec moi. Viens que je te parle, Seigneur. Je suis la brebis égarée. Je suis la brebis qui n'arrive plus à retrouver son chemin. Je suis blessé de toutes sortes de blessures. Mon prochain m'a fait cela. Telle situation, telle circonstance. Est-ce vrai, est-ce faux? Mais nous sommes une génération blessée. Et tout s'est déclenché avec ce couple. Quand le dimanche matin, je disais que j'étais à Nzérékoré en Guinée, et qu'en Sierra Leone, il y avait eu 6000 personnes que l'on avait amputées comme une loterie. Pratiquer. Et je parlais aussi au Cambodge, où j'ai vu tous ces gens dans le quartier du dictateur avec tous amputés d'une jambe, d'un bras. Ça, c'est une génération qui est amputée, visible. Mais j'ajoutais que nous aussi, nous sommes amputés, blessés intérieurement dans notre âme. Et nous avons des blessures. Parce que nous nous sommes blessés nous-mêmes, parce que nous avons été blessés. Mais le seul qui puisse guérir notre âme, c'est Jésus. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. C'est nos souffrances qu'il a portées. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos maladies. Il a pris tout ce qui nous détruisait. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Peut-être avez-vous été victime du prochain, mais Jésus est votre prochain et notre prochain. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Allons vers notre prochain, faisons-lui du bien. Amen. Nous prions le Seigneur. Réveille mon esprit. Ou plutôt, c'est règne en moi, pardon. Règne en moi, Seigneur. Oh, règne en moi, règne en nous, Seigneur. Nous te rendons grâce.
et nous te remercions parce que tu es venu sur la terre des hommes. Seigneur, comme la pensée de la semaine, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, tu lui donneras le nom de Jésus. Merci parce que tu es venu sur la terre des hommes. Tu es venu parce que le Créateur qui a placé l'homme sur la terre s'est fait du mal. On lui a fait du mal. Tu es venu guérir nos cœurs brisés, guérir nos corps malades. Tu es venu mettre la vie éternelle en nous. Merci pour notre Église qui aime son prochain, Seigneur. Merci encore que cet amour nous garde dans cette nouvelle année qui va s'ouvrir. Nous te prions pour cette réunion afin que tu bénisses en abondance et que tu nous donnes une grâce particulière. Au nom de Jésus-Christ, sois remercié, adoré, à tout jamais. Amen. Pourrait se lever, règne.